Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui, émission spéciale. J'ai le plaisir de recevoir Lionel Courteau, bien connu sur cette antenne. Il est le présentateur, animateur, producteur et inventeur génialissime de l'émission. Il est temps de chasser l'ennui, mais pas que. Nous allons découvrir tout au long de cette émission l'éclectisme de ce personnage. Lionel, bonjour.
Bonjour Corinne et merci pour une telle présentation.
C'est totalement ce que je ressens et ce que les membres de l'équipe ressentent quand on est devant vous. Vous êtes plein d'énergie, vous avez toujours 100 000 idées à la seconde et vous êtes un des rares à concrétiser ces idées, du moins en grande partie.
J'essaye.
Et c'est assez rare pour le dire. Alors, rapidement, le personnage de Lionel Courteau, vous êtes docteur en ethnologie, c'est ça ?
Oui.
Professeur à l'université de Strasbourg, vous êtes également metteur en scène, auteur et interprète. Vous êtes rigoureux, instable, en tout cas on dit de vous que vous êtes rigoureux, insatiable de travail, j'ai fait un mauvais lapsus, insatiable de travail, un peu hyperactif, un créateur et surtout, vous êtes toujours très proche des gens, toujours à l'écoute des gens avec qui vous travaillez et des gens que vous côtoyez, ce qui est important.
Ah, c'est capital. Tout ce que j'entreprends, c'est aussi parce que derrière, il y a une dynamique de groupe et j'aime m'entourer de personnes qui partagent ces envies et je leur donne une grande confiance. Donc c'est vrai que dans tous les projets que je fais, les personnes qui m'entourent ont un rôle essentiel. Et de fait, effectivement, il y a un travail d'équipe.
D'accord.
On travaille un peu en famille, c'est important.
Alors, vous êtes, on va continuer un peu dans les présentations, vous êtes directeur d'une troupe de théâtre, comment
oui.
on dit ?
Oui, directeur d'une compagnie. En fait.
Une compagnie de théâtre, ouais. Ainsi que d'une société de production, Kesako.
Alors la société de production, elle s'essouffle un peu de fait, parce que comme vous l'aviez dit, à force de multiplier les projets, certains vont prendre un peu plus le dessus. La société de production, c'était dans l'idée de réaliser un certain nombre de documentaires,
ouais.
Parce que je suis passionné d'histoire en général et donc il y a tout le temps toutes sortes de projets sur lesquels je travaille, donc que ce soit pour la scène ou donc pour l'audiovisuel, et j'avais envie de développer cet aspect-là.
Ouais.
Alors ce qui se précise aujourd'hui, c'est que je continue bien sûr, mais je ne peux plus tout porter et donc la société de production risque d'être mise entre parenthèses pendant un temps parce que je vais travailler pour d'autres sociétés de production, c'est-à-dire que mon travail essentiel, c'est l'écriture, c'est la mise en place de projets. Et du coup, toute l'administration et la réalisation même du documentaire, je vais travailler en collaboration avec d'autres sociétés. Là, je suis sur 2-3 projets et en fait, je vais plutôt travailler pour d'autres structures. En fait.
Quand je vous dis qu'il est boulimique, c'est vraiment un faible mot. Il a tout le temps une idée qui devance l'autre et c'est incroyable. Alors, on va... Aujourd'hui... J'avais envie de vous inviter pour que vous nous parliez d'une aventure extraordinaire qui vous est arrivée. C'est quelque chose de vraiment très atypique, puisque, je l'ai dit, vous êtes directeur d'une troupe de théâtre et il vous est arrivé un truc incroyable. Vous avez réussi à faire quelque chose de très difficile, c'est de jouer à Avignon.
Alors, on a joué à Avignon cet été et à Paris dans la foulée pendant 5 semaines à la cartoucherie de Vincennes. Donc, ça a été effectivement une aventure incroyable, démarrée il y a quelques années. Et effectivement, c'était un projet assez porteur et qui nous a donné cette à la fois opportunité de jouer à Avignon, mais en plus d'y vivre une belle aventure. Parce qu'Avignon, c'est risqué, c'est un pari toujours difficile pour une compagnie, ça coûte cher. Beaucoup de compagnies disparaissent en Avignon. Nous, on a eu la chance, effectivement, de connaître le succès, en particulier au niveau des médias, parce que, grâce à ce projet sur lequel on va revenir dans un instant, on a suscité une véritable curiosité et un véritable intérêt, et au-delà de nos espérances. Donc, c'est vrai que ça a été une aventure tout à fait fabuleuse et que l'année 2019 a été un peu une année miraculeuse pour nous.
Ouais, mais là, elle va être encore plus miraculeuse, elle va exploser, ça, cette année. Alors, on va quand même dire que c'est pour une pièce qui s'appelle Le Crépuscule, c'est la première adaptation théâtrale d'un essai, ça s'appelle Les chaînes qu'on abat, l'essai, et donc extrait Le Crépuscule, c'est ça ? Si j'ai bien tout compris.
Le Crépuscule, c'est l'adaptation théâtrale des Chaînes qu'on abat d'André Malraux.
Voilà.
Qui raconte le dernier entretien entre De Gaulle et Malraux. Alors, qui est un probablement fantasmé par l'auteur. On connaît un peu Malraux, sa capacité à retranscrire la vérité à travers son propre prisme. Mais si c'est un génial affabulateur, cet entretien a réellement eu lieu. Et puis, d'aucuns ont dit que c'était avant tout le bilan et le résumé de 20 ans d'amitié entre ces deux hommes extraordinaires. Et que l'essai, et du coup la pièce qui essaye d'en faire autant, sublime un petit peu cette relation et donne un texte assez incroyable et qu'on a adapté au théâtre, là aussi, dans un pari un peu difficile et réussi grâce à deux comédiens fantastiques. Mais tout ça, on va y revenir, j'imagine.
Mais bien sûr, moi, j'aurais voulu savoir, il y a tellement de textes et de pièces à mettre en scène, pourquoi vous avez décidé de choisir celle-là ?
Alors là, il faudrait... Si vous me laissez quelques minutes,
c'est
toute une histoire.
Allez, là,
parce que
je là, vous laisse et je me tais.
C'est une aventure. C'est, en gros, dans la vie, on multiplie les projets, comme vous le disiez, mais il y a de temps en temps quelque chose qui vous occupe et vous habite pendant très longtemps. Et c'est un peu le fruit de cette histoire. Et c'est vrai que ce sera sans doute l'histoire de ma vie, enfin, en tout cas l'événement marquant. Ouais. En fait, c'est d'abord une première lecture. Alors, pourquoi cet intérêt pour le général de Gaulle ? On pourrait peut-être commencer par ça, parce que je ne suis pas issu d'une famille gaulliste, loin s'en faut. J'ai même pas eu d'intérêt particulier pour le général de Gaulle, même durant mes études. Et c'est plutôt vers la fin de mes études que le hasard m'a donné l'occasion de rencontrer deux spécialistes du général de Gaulle et d'avoir des discussions avec eux passionnantes. Et puis, l'un d'eux m'a beaucoup parlé d'un essai, Les chaînes qu'on abat, qu'il faudrait que je le lise, que ça me plairait, etc. Donc, de fait, je le trouve par hasard sur les quais à Paris.
Vous aviez quel âge à l'époque ?
27, 28.
Bon, il n'en a pas beaucoup plus. Hein. Il est jeune, Lionel.
Moins dans la tête.
Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, 27 ans. Donc...
Je lis ce texte un peu particulier, hein, c'est du Malraux, et c'est un essai à la fois philosophique et existentiel. Et je lis ce texte et effectivement je découvre à travers ce texte deux personnages, c'est-à-dire que tout le monde connaît De Gaulle et Malraux sans les connaître. Ouais. Et en lisant ce texte, qui rentre dans leur intimité, et qui rentre, c'est une véritable introspection que font les deux, et on parle à la fois de leur bilan politique, mais également de tout ce qui a fait intervenir le destin dans les choix fatidiques qu'a dû faire le général. Et puis, c'est aussi un questionnement sur la vie et la mort. La mort est très présente dans ce texte. Ce sont toutes les influences intellectuelles du général, les auteurs, et comment, face au destin, les décisions ont dû être prises par l'un et l'autre. Et donc, c'est un vrai questionnement. C'est très touchant parce que, du coup, on rentre dans leur intimité et derrière cette intimité, on découvre les hommes face au destin et face aux grands événements que tout le monde connaît. Et puis, ce sont leurs rencontres avec les grandes du XXe siècle. Donc, c'est une plongée, une vraie plongée dans la géopolitique du XXe siècle à travers cette discussion un peu banale. Hein. Ce sont deux hommes, qui discutent entre eux. Et du coup, pour les passionnés d'histoire, c'est une pièce qui, de fait, est très marquante. Et puis, au-delà, c'est une vraie interprétation théâtrale.
Oui, alors, la pièce... dans le temps, c'est après la guerre, quelles années à peu près ?
Alors, ça se passe en 1969, après la démission du général de Gaulle. Et c'est ça qui est important, d'où le titre Le Crépuscule. C'est-à-dire que j'ai choisi ce titre parce qu'on y voit un homme abattu, blessé par son échec au référendum et sa démission. En but à l'ingratitude des Français, en tout cas, il le ressent comme ça. Et puis, c'est cet homme blessé de retour d'Irlande et qui a écrit ses mémoires et qui a décidé de se couper du monde, qui est totalement isolé.
À ce moment-là, De Gaulle, il veut rester en dehors de la politique.
Plus rien avec les affaires du monde. Ouais. Il est reclus à la Boisserie, chez lui, et il écrit. Et il se balade dans son parc. Et à l'occasion, il reçoit quelques visites. C'est le cas ce jour-là d'André Malraux. Et il philosophe et il discute. Et c'est de cet entretien que se nourrit donc à la fois l'essai et donc la pièce de théâtre. Alors si je peux revenir sur l'historique de tout ça, on est en 2001 hein, quand je découvre ce texte. Et donc ça devient presque un fantasme, cette lecture, et je me retrouve à nouveau avec ces deux amis pour parler de l'ouvrage. Et dans la soirée, presque en plaisantant, je dis il faudra en faire un jour une adaptation théâtrale. Puis on en plaisante, on en rigole, pas une seconde, j'imagine que la chose peut se faire.
Vous aviez déjà adapté des pièces ?
Non, si, j'avais monté un premier spectacle 2 ans auparavant, c'était mes débuts au théâtre. Et je reprenais ma thèse, donc j'étais pas certain de poursuivre à ce moment-là le théâtre. Et puis un de mes deux amis me demande en plaisantant, tu verrais qui pour jouer De Gaulle ? Parce que en fait, toute la difficulté d'un tel projet, c'est imaginer quelqu'un
alors,
jouer De Gaulle.
Alors dommage qu'on n'a pas pas l'image. Vous verrez ses yeux là,
à l'époque, ça brille. J'étais donc encore étudiant en thèse et j'allais régulièrement au TNS. Et à l'époque au TNS, il y avait un comédien qui me fascinait. Il faisait partie de la troupe de Stéphane Braunschweig, c'était Philippe Girard. Et ce comédien, un charisme grand, extraordinaire, et c'est un interprète magnifique, un des plus grands tragédiens français. Et moi, je leur dis, je ne vois personne d'autre que Philippe Girard. Et voilà, on en discute comme ça et on en plaisante. Mmh. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a la perspective pour moi de créer les chaînes qu'on abat à l'époque, d'autant que c'était inimaginable d'avoir l'autorisation à la fois de la famille Malraux et de Gallimard. On est donc en 2001. Pendant 10 ans, tout ça est mis de côté. Et la rencontre décisive pour la suite, c'est Robert Walter, en 2011, fin 2011, décembre 2011, qui m'invite à dîner et qui me parle du traité de l'Élysée en 2013, les 50 ans du traité de l'Élysée. Ouais. Le traité d'Élysée, c'est le traité de réconciliation franco-allemand. Et il me dit, Lionel, il faut absolument qu'on monte quelque chose pour célébrer les 50 ans. Et là, j'ai un flash. Comme je rêvais depuis 10 ans de ce texte de De Gaulle et Malraux, c'est l'envie de mettre en scène De Gaulle qui reprend le dessus. Et je réponds à Robert, on va travailler sur De Gaulle Adenauer et à travers leur rencontre, raconter les coulisses géopolitiques de la réconciliation franco-allemande. Puisque quand De Gaulle arrive au pouvoir en 58, il n'a qu'une obsession, la réconciliation avec l'Allemagne. Et ça va se faire grâce à l'amitié qui va naître entre ces deux hommes quasiment mythiques. Et je raconte ce spectacle, dans ce spectacle, donc, leurs différents échanges, que ce soit donc en direct ou épistolaire. Et de ces échanges, comment cette réunification va se mettre en place. Et donc, je travaille pour une première fois sur De Gaulle.
Mais à ce moment-là, est-ce que vous aviez déjà l'envie de monter la pièce telle qu'elle est, elle a été présentée ?
Non, pas du tout.
C'était juste une ébauche.
C'était juste, l'envie. Je vais utiliser le mot, hein, c'est presque un fantasme de dire je vais travailler sur De Gaulle et Malraux. Là, pour le coup, c'est l'opportunité de travailler sur De Gaulle et Adenauer qui se présente. Et je travaille là-dessus sans savoir où tout ça me mènera.
Ouais.
Et c'est le succès de ce spectacle qui m'amène à rencontrer...
Ouais, mais moi, je veux savoir comment on travaille,
c'est des livres.
Vous êtes aidé par un historien, vous avez des pistes
J'ai des pistes de lecture, et puis...
Est-ce qu'il faut être précis ?
Oui, bien sûr. Là, c'est beaucoup de lecture. C'est des semaines et des mois même de lecture avant de me lancer dans quoi que ce soit. Des prises de notes compulsives. Ouais. Et je réfléchis au fur et à mesure à ce projet grâce aux lectures que je peux faire. Et les lectures renvoient à d'autres lectures. Et voilà. Donc, c'est ma bibliothèque qui s'est fournie, qui a été essentielle à toute cette démarche. Et on est encore une fois loin de la suite. Une fois que ce spectacle est créé et qu'il tourne, la chance incroyable a commencé, c'est que j'ai rencontré Alain Malraux, donc le fils adoptif d'André, son neveu en fait au départ. C'est une histoire de famille très compliquée, hein, Malraux.
C'est une autre histoire.
Une vie très compliquée.
c'est un autre texte.
Et Alain, c'est le fils de son frère mort en déportation. Et qu'il a dû adopter en 1945. Alain n'a même pas vu son père, puisqu'il est né lorsque son père était déporté. Et donc André, à la fin de la guerre, récupère ce neveu devenu orphelin et va l'adopter comme son fils. Il va même l'adopter définitivement. Et voilà, donc je rencontre Alain et nous sommes en janvier 2015. Et je lui parle de cette envie d'adapter les chaînes qu'on abat. Et là, Alain, tout de suite, me dit que c'est une idée géniale, qu'il faut absolument se lancer. Et comme à l'automne 2016, on fêtait les 40 ans de la mort d'André, on s'est donné comme objectif de le créer à ce moment-là. Et dans la foulée, on a été voir la Fondation De Gaulle en me disant bah, pourquoi pas, puisque j'ai déjà travaillé sur De Gaulle avec ce projet De Gaulle Adenauer, un spectacle que j'avais appelé Le Traité. J'avais une première légitimité sur le travail sur De Gaulle et je me suis dit bah, tiens, voilà, ce rêve va peut-être pouvoir aboutir. Donc la Fondation me reçoit très bien, ils sont emballés par le projet, ils me disent ok, participe au financement et à la diffusion.
Bah, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que tout ça, nous on est en train de parler, ils participent, ça prend du temps,
ah, mais il faut des contacts. C'est des années de travail. Hein,
oui, ça, c'est ça, il faut des contacts, il faut pouvoir rentrer.
Mais bien sûr, bah là j'ai frappé à toutes les portes possibles. Jusqu'au ministère, j'ai frappé à toutes les portes. Il faut beaucoup de détermination, il faut y croire et il faut bouger un peu certaines personnes parce que tout le monde trouve l'idée intéressante mais n'ose pas forcément aller au bout Et au début, j'ai eu beaucoup de scepticisme. Hein. Faut pas croire que tout le monde m'a accueilli les bras ouverts. De loin pas, même surtout pas dans la région d'ailleurs.
Vous êtes arrivé avec
vous assurer qu'il y a bien une région où on m'a pas aidé, c'est bien en Alsace. Hein.
Mais vous êtes arrivé avec votre texte sous le bras et vous leur montrez, vous leur dites regardez ce que je peux faire, etc.
Exactement, c'est exactement ça.
Donc c'était, il y a eu d'abord le travail d'écriture et après ce deuxième travail qui est
même pas le travail d'écriture parce que là encore, je n'ai que l'idée en tête et quand je convainc la Fondation De Gaulle, c'est sur le principe même. À partir du moment où j'avais ces deux soutiens majeurs, la famille Malraux, parce que Alain m'a fait rencontrer Florence, qui était l'ayant droit, Florence Malraux, et du coup, à fort du soutien de la famille et fort du soutien de la Fondation De Gaulle, je me suis dit, ah mais là, peut-être que je peux aller au bout du rêve, et peut-être que tout est possible maintenant. Et l'étape suivante qui a été décisive, nous sommes à l'été 2015, je suis au Festival d'Avignon, et cet été, Olivier Py, le directeur, met en scène le roi Lear dans la cour des papes. Et pour jouer le roi Lear, choisit son comédien fétiche, ce comédien sublime et tant admiré, Philippe Girard. Et c'était la star de l'été à Avignon, il était sur l'affiche du spectacle.
C'est un comédien de théâtre, théâtre public.
Théâtre classique, public. Oui, bien sûr, public. Ouais. Ben, il joue essentiellement à l'Odéon et au TNS. Ça. Voilà, ça, c'est ses deux lieux fétiches. Et là, du coup, c'est un ancien élève de Vitesse. D'ailleurs, quand on parle avec lui, il parle tout le temps de son maître Vitesse. C'est un des derniers grands Vitésiens.
Antoine Vitesse, voilà. Et vous, à ce moment-là, c'était ça ou c'était lui ou rien ?
Je ne vois pas qui aurait pu le faire. Et là, comme tout le monde, comment on fait pour rencontrer Philippe Girard ? Eh bien, je suis passé par Facebook.
Ah non !
Comme tout le monde. Et via Facebook, je l'ai contacté, j'ai envoyé un message. Une heure après, il me répondait et me donnait rendez-vous dans la foulée, place de l'horloge.
En fait, place de l'horloge, vous n'avez pas cru une blague ?
Ben non, j'ai senti qu'il se passait quelque chose quand même, parce que tout allait vite à ce moment-là.
Incroyable.
Il jouait à 21h, à 19h, il me donne rendez-vous place de l'horloge, et sans réfléchir, voilà, j'y vais, il me rejoint, et là je le vois arriver en Bermuda, c'était un été, il faisait très chaud déjà à l'époque.
Avignon fait toujours très chaud, surtout quand on joue dans
le... Oui, c'est ça, ben, il a beaucoup souffert, hein. Il m'a dit que ça a été sa pire expérience en termes de chaleur. Bref, on se retrouve, place de l'horloge, et là je lui parle des chaînes qu'on abat et de ma volonté d'en faire une adaptation. Et là où je suis convaincu depuis ce jour qu'il y a un vrai destin autour de ce spectacle, c'est qu'il me regarde et me dit « c'est une idée géniale ». Mais... j'ai lu les chaînes qu'on abat quand j'avais 16 ans, ce texte m'a marqué à vie. Voilà ce que me répond Philippe Girard.
Alors,
j'avais pas écrit l'adaptation.
Là, vous n'avez pas encore écrit l'adaptation et on se doute bien qu'un comédien, il a besoin d'être payé. Il y a un certain, c'est ça.
Et plutôt bien.
Voilà, c'est ça. C'est comme, je veux dire, c'est comme dans une entreprise quand on a des grades. Je veux dire, c'est pas n'importe qui. Donc il y a un tarif qu'il faut arriver à payer.
Moi, c'est que le culot. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je doute de ma capacité à trouver l'argent. Et je convainc Philippe très vite parce que, par mon enthousiasme et ce culot, il est convaincu que j'ai une grosse structure et des moyens.
Ah ouais.
J'en avais aucun.
Pour le moment, il ne sait pas.
Il ne se rend pas compte du manque de moyens dont je dispose.
Ouais.
Ou dont je ne dispose pas.
D'accord.
Et c'est drôle parce que je ne lui parle que du projet. Lui, il trouve l'idée géniale. Il me dit, bon, bah, il te reste, comme je ne l'avais pas écrit, il rigole. Il me dit, bon, bah, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire au mois d'août. On se donne rendez-vous en septembre. Je passe mon mois d'août à écrire. Et on se retrouve mi-septembre. On va boire un café. Je lui parle du projet. Cette fois, je lui donne le texte. Et à l'issue des 2 heures de discussion, je suis tellement enthousiaste, emballé, je lui parle de plein de perspectives qui ne sont que à ce moment-là
que des perspectives.
On se quitte, il me serre la main, il me dit « Écoutez, c'est bon pour moi, je réserve mon automne l'année prochaine, il n'a pas encore lu le texte, il me serre la main. »
Alors, moi, le peu que je sais un peu sur les comédiens, très people en fait, moi je me dis, un comédien pour accepter un rôle, il a besoin d'un agent. Donc,
alors, Philippe, sans passer la... Philippe a un agent, mais comme je suis passé directement.
Ah, c'est incroyable.
Et du coup, on n'a pas eu besoin de passer par l'agent. Et il a été convaincu par le projet. Alors, évidemment, il a lu le texte derrière et il a vu qu'il y avait matière parce qu'il fallait que ça reste quand même théâtral. Donc, effectivement, pour que le comédien s'y retrouve, il fallait qu'on ait réussi à donner vie à cet essai, ce qui n'était pas simple. Et là où évidemment, je suis un homme heureux et comblé, c'est qu'il a trouvé mon travail réussi. Et du coup, on est parti dans cette aventure. Et après, il fallait évidemment trouver un comédien du même calibre pour jouer Malraux. Très vite, on s'est mis d'accord sur John Arnold, un comédien exceptionnel.
Il a un peu le physique.
Ouais, complètement. Ouais. Et du coup, je me retrouve du jour au lendemain avec deux monstres. Et là, c'est là que c'est drôle, parce que beaucoup de gens, pour ne pas dire la plupart des gens, ne croyaient pas en ma capacité à pouvoir diriger de tels comédiens. C'est la première fois que j'avais un projet aussi ambitieux, à ma capacité à le financer, à ma capacité à le faire vivre. C'est là que j'ai senti certains scepticismes et que j'ai dû me battre pour arriver à trouver les fonds qui étaient importants à trouver. La Fondation a joué un rôle très important.
La Fondation
de Gaulle. Là, a été essentielle sur la création en 2016 pour réunir les fonds.
Là, on est en 2016.
En
2016. Et donc, à ce moment-là, vous avez commencé à ramasser, à lever les fonds.
Oui.
La Fondation de Gaulle, qui vous a aidé à part cette fondation? Comment on peut persuader des investisseurs sur un projet aussi ambitieux?
Sur les fonds privés, j'ai réussi à mobiliser ceux qui soutenaient mon travail jusque-là. Donc, j'ai quand même quelques partenaires historiques qui soutiennent la compagnie. Donc, on continue à le faire. Et puis, les collectivités ont toujours suivi mon travail puisque je travaille sur des fêtes historiques depuis des années. Donc, la région Alsace m'a toujours soutenu depuis des années. Mmh. Donc là, j'arrivais avec ce nouveau projet sur De Gaulle. Ils avaient soutenu le traité via Robert Walter et l'Institut culturel franco-allemand. Donc, ils n'ont fait que poursuivre un processus de soutien. Et là, je dois reconnaître que la région Alsace a toujours été présente, la collectivité. Et puis, Pascal Mangin, le vice-président chargé de la culture, a toujours cru à mes projets. Donc, c'est vrai que ça a été un soutien déterminant pour la suite. Après, la ville de Strasbourg a suivi. Et là, c'est Alain Fontanel, l'adjoint à la culture, qui a toujours soutenu aussi mon travail. Donc, au niveau des collectivités, je ne peux pas me plaindre. Le soutien a été très fort.
Mmh. Voilà. Donc là, vous avez vos financements.
Et okay. Là, le financement s'est fait progressivement.
Ok. Vous avez vos financements et puis vous partez avec votre petit bagage.
Voilà. Et après, ce qui a été déterminant, c'est le travail avec ces deux.
Alors voilà, c'est là, c'est ça, la deuxième partie de... C'est cette partie que j'aimerais développer avec vous encore. C'est incroyable, moi j'arrive pas à croire Voilà, on arrive de la province, parce qu'il faut dire ça comme ça, hein, c'est vrai. On arrive quand même à faire bouger.
La première chose, ça a été d'imaginer une scénographie pour ce projet, parce que comme c'est un dialogue,
ouais,
c'est
un huis clos,
c'est compliqué. Et il faut trouver quelque chose qui soit à la fois visuellement réussi, parce que notre idée c'était de pouvoir jouer sur des grandes scènes, et donc il fallait aussi habiller la
scénographie.
Et, ouais. Et là, j'ai choisi de travailler avec Alexandre Fru, un excellent scénographe, et qui a réfléchi à la boisserie elle-même, donc le lieu où se passe ce rendez-vous, et qui a essayé de sublimer le lieu de manière contemporaine et en trouvant quelques astuces au niveau de la scéno. On a travaillé tout de suite en collaboration avec Xavier Martaillan, qui est le régisseur général et qui fait la création lumière. On avait déjà travaillé ensemble sur un premier projet tous les trois, et donc on a une grande confiance, c'est ce que je disais en introduction tout à l'heure, c'est que j'aime les gens avec qui je travaille et ils me le rendent, et du coup il y a une très très grande confiance entre nous. Et donc on s'est assis autour d'une table et on a travaillé ensemble à l'élaboration de ce projet. Et donc on a créé cette Céno. Et ça a été très important parce que quand j'ai accueilli Philippe et John à Strasbourg pour travailler et commencer les répétitions, on leur a de suite montré la Céno et ça les a tout de suite mis en confiance. Parce que c'est très très important pour eux. Ils ont besoin de se repérer physiquement sur le plateau et dans l'espace. C'était essentiel. Il faut savoir que sur le plateau, il se place au millimètre. Hein. On a un travail de lumière qui est d'une précision chirurgicale. Et tout ça a été rendu possible grâce à ce travail en amont, donc sur la Céno. Donc c'est la crédibilité même de mon travail et du projet passait aussi par ça. Et donc, ça a démarré sereinement parce que tout ça avait été bien préparé.
Mais vous avez répété, enfin plutôt, vous avez mis en place cette pièce à Strasbourg.
Oui, en 2016 au Préau, à Oberhausbergen.
À Oberhausbergen, à la salle du Préau, c'est ça. Et pendant combien de temps on a travaillé
4 semaines, et la première semaine on a travaillé qu'autour de la table, c'est-à-dire que John, Philippe et moi on a travaillé sur une maquette, la maquette de Céno. Et alors, quand on travaille avec de tels comédiens, alors, je vous assure que j'ai appris beaucoup de choses de mon métier en collaborant avec ces deux personnages, parce que ils ont une telle maîtrise et une telle connaissance de leur métier. C'est pour ça que ceux qui pensaient que j'arriverais pas à les diriger, je m'en amuse beaucoup aujourd'hui, parce que c'est tout le contraire qui s'est passé. On est devenus extrêmement proches avec Philippe parce que justement, je les ai beaucoup écoutés et j'ai très vite compris comment eux fonctionnaient. Et c'est moi qui me suis adapté. C'est-à-dire que beaucoup de metteurs en scène obligent les gens à s'adapter à eux. Je me suis complètement adapté. Je suis au service du projet. Je suis un porteur de projet, comme je définis souvent, beaucoup plus qu'un metteur en scène ou un directeur d'acteur. Et donc, j'écoute et je m'adapte systématiquement quand c'est nécessaire. Et là, j'avais la chance donc d'avoir ces deux monstres comme partenaires de scène. Je les ai écoutés, je les ai laissés discuter aussi entre eux. Et puis, on a fait des lectures. On a été boulimiques de lecture. Et on a relu ce texte pour le changer à la virgule près. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait que ça coule. Mon obsession, c'était qu'on ne décroche pas du texte et que ce soit fluide. Et donc, c'est aussi à la lecture que j'ai fait quelques petites retouches avec eux. Et puis, on a débattu du fond du spectacle aussi. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne connaissance de la période. Et je leur ai apporté aussi mes connaissances par rapport à ça. Je leur ai raconté toutes sortes d'anecdotes pour qu'ils rentrent bien dans les deux personnages. Je leur ai proposé des livres à lire. Donc, le soir, ils lisaient d'autres ouvrages. On s'est vraiment nourris d'abord intellectuellement pendant une semaine. Et il fallait bien maîtriser tout le contexte historique, géopolitique, idéologique. Et donc, on est vraiment revenu sur toute la période de la Résistance jusqu'à la démission. Vous voyez, c'est 30 ans de l'histoire de France dans laquelle on s'est plongé pendant une bonne semaine. Et à l'issue de ce travail et de cette réflexion autour de la maquette, on a réfléchi à tous les déplacements. Qu'en fait, comme les personnages se déplacent à la boisserie, ce qu'on voulait, nous, c'était que eux ne changent pas d'espace, mais que les espaces changent autour d'eux. Mmh. Et du coup, toute la Céno bouge, et donc on utilisait notre maquette et on réfléchissait à tous ces déplacements.
Oui, c'est important au théâtre.
Et c'est incroyable le temps qu'on a gagné, parce que quand on a commencé le travail de répétition, et c'est là que c'est très impressionnant de bosser avec deux types comme ça, c'est qu'au millimètre près, ils étaient en place.
Ils le savaient
dès
déjà.
Dès la première, ils savaient leur texte. Ça aussi, parce que les comédiens, vous savez, l'apprentissage du texte est très, 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 très laborieux avec eux. Dès le premier jour de répétition, le texte était su parfaitement. Donc, vous arrivez, le texte est su, et
vous
ils
avez
ont
gagné
en tête
du
tous
temps.
Les déplacements.
Voilà,
ah bah, ça s'est fait
un
avec
fou,
une vitesse incroyable. Donc, en deux semaines, c'était plié, tout était en place au niveau du texte et du jeu.
2016.
On est en 2016. Et la dernière semaine, on est au préau. Et là, c'est la technique qui doit se mettre en place. Donc, le décor et la création lumière. Et là, on a eu une semaine. Donc, un travail énorme de toute l'équipe. Et en une semaine, on a réussi à mettre en place techniquement tout ce qu'on avait imaginé en amont. Donc, une semaine de travail autour du texte, deux semaines d'apprentissage du jeu et puis une semaine de mise en place dans l'espace de la Céno et du décor.
D'accord. Et après, vous avez joué pour la première fois ?
Première fois au Préau, octobre 2016.
Octobre 2016.
C'est ça. Et après, grâce à la fondation à l'époque et à un petit réseau, on a joué une quinzaine de fois jusqu'au mois de janvier, où on a joué à Boulogne pour la dernière. Donc c'est ça, une quinzaine de représentations sur la partie création-production.
D'accord. Comment vous avez eu envie d'aller... Est-ce que quelqu'un est venu et vous avez remarqué en disant ça, c'est un spectacle qui serait bien pour être transporté ou joué à Avignon?
Alors à ce moment-là, à ce moment-là, clairement non. Alors la chance, c'est d'avoir John et Philippe qui, eux, sont très connus dans le monde du théâtre. Par contre, le sujet, il n'est pas facile à vendre,
ouais,
parce qu'il fait peur, hein, forcément.
Mais oui, surtout un huis clos, Malraux,
on imagine
de
mal
Gaulle.
C'est ça. Alors, quand les gens viennent voir le spectacle, ils en sortent emballés. Et combien de fois j'ai entendu dire « je suis venu, j'avais un peu peur
ouais. ».
Et les gens sortent limite les larmes aux yeux à la sortie. Et comment le vendre dans ces conditions? Donc c'est difficile. Pendant un an, on s'est posé la question. Et puis après, une certitude m'est venue, c'est que l'année de Gaulle qui s'annonçait en 2020 nous offrait de vraies opportunités. Et du coup, le mieux, c'était de reprendre le spectacle au Festival d'Avignon l'année d'avant, donc à l'été 2019, et c'est devenu le principal objectif. Donc à l'été 2017, je vais au festival et je tente de mettre ça en place. Je trouve une diffuseuse qui était venue voir Ah oui, parce que j'ai oublié de dire qu'on a fait une reprise grâce au groupe Mazar qui avait financé la reprise du spectacle au Point d'eau, à Oswald, sur deux représentations exceptionnelles. Donc là, on a fait venir du monde, et en particulier une diffuseuse qui est venue de Paris et qui a trouvé le spectacle génial, elle a été très touchée, elle a dit « moi, je veux bosser dessus ». Et du coup, grâce à elle, en 2018, lors du festival, on a trouvé la seule salle possible dans le off, avec le grand plateau, parce que du coup, on a mis une très grosse scène en place, donc il fallait un grand plateau, et donc on a trouvé la salle, Présence Pasteur. Le directeur a tout de suite dit oui quand il a vu le nom des comédiens, et dès lors qu'on avait la salle, on avait le projet, et donc on se lance sur cette reprise donc, pour le Festival d'Avignon 2019.
C'était cet été.
C'était donc cet été, voilà. Ah, et là, avec l'idée de pouvoir le montrer à des programmateurs, et c'était ça l'enjeu principal. Et puis, tout va s'accélérer très vite, parce que dès l'automne 2018, le Théâtre de l'Épée de Bois nous contacte et nous propose la reprise donc à l'automne pour 5 semaines du spectacle. Donc, on se retrouvait dans la foulée au Festival d'Avignon et à Paris pour présenter le spectacle.
Mais vous aviez... Vous m'avez raconté une ou deux anecdotes à Avignon avec ces grands du théâtre.
Alors,
et vous, la troupe.
Alors moi, j'avais une peur bleue pour
voilà,
Avignon.
Voilà, moi j'aime bien cette anecdote. Racontez-la.
Ben déjà, il faut savoir que John et Philippe donc, sont des habitués du Festival d'Avignon, mais toujours dans le Huyn, puisque Philippe,
bien
en
sûr.
Fait, tous les ans, joue pour Olivier Pille, le directeur, et joue en fait tout le temps sur la cour, dans les grandes salles, donc la Cour des Papes ou la Fabrica, et qui sont les lieux les plus prestigieux d'Avignon. Et il a toujours eu des conditions énormes et des moyens exceptionnels à Avignon. Et moi, pour la première fois, je lui propose le pire, c'est-à-dire le off, la galère,
la chaleur,
et des conditions précaires. Et
pas les grands hôtels.
Passe, et surtout pas les grands hôtels. Donc effectivement, je me suis dit, mais c'est pas possible, jamais ils vont accepter. Première grande surprise, c'est qu'ils ont accepté.
C'est formidable.
Pourquoi ils ont accepté? Parce qu'ils croient en ce projet, ils aiment ce projet, et ils avaient vraiment envie de le faire vivre.
Et ils reviennent à la source des acteurs, quoi.
Et il se passe, alors ma deuxième peur, c'est, bon, comment on va vivre ça? Donc j'ai loué une maison, une grande maison. On était nombreux dans l'équipe.
Mais comme on fait souvent dans les festivals off, ouais. Ils louent des maisons, les troupes louent des maisons, parce que ça revient beaucoup moins cher.
Beaucoup moins cher, évidemment, que l'hôtel,
ben
on n'aurait jamais pu. Donc là, je trouve assez rapidement
une grande maison.
Alors, il ne faut pas fantasmer sur la maison elle-même. Hein. C'était une vieille maison, aucun confort, mais par contre extrêmement bien disposée, où je pouvais avoir une pièce avec tout le confort pour Philippe. Il pouvait être un peu indépendant, il y avait un petit studio, une petite cuisinette. Comme ça, il n'était pas obligé de vivre tout le temps dans la troupe, avec la troupe. Et pareil pour John, qui était dans un petit studio à l'écart. Donc les deux, on était à la fois dans la maison, mais eux deux pouvaient avoir...
Leur intimité,
on va dire. Voilà. C'était très important, parce que ma peur, c'était que cette vie de troupe puisse les
la
les
promiscuité
étouffer,
voilà. Puisse les étouffer.
D'autant que dans l'équipe, on était entre 10 et 15 selon les périodes. C'est important. J'avais pris quelques stagiaires, donc il y avait des jeunes, des étudiants aussi dans le projet. Et j'avais un peu peur, évidemment, de la cohabitation de tout ce beau monde. Et c'est tout le contraire qui s'est passé.
Formidable.
Inutile, parce que pour Philippe et John, ça a été l'inverse qui s'est produit. Comme l'a dit plusieurs fois Philippe, il est revenu aux essentiels.
C'est ça.
Il a retrouvé cette vie de troupe qu'il avait perdue depuis très longtemps. Et finalement, de revivre dans cet inconfort, il a retrouvé une pression qu'il avait perdue. Hein, il nous racontait des choses assez intéressantes pendant toute cette période. C'est que quand vous jouez dans le Huyn, quoi que vous fassiez, ça marche. Et quoi que vous fassiez, le public est là. Puisque c'est un public très institutionnel qui vient par principe voir ce que fait Olivier Py. Et même quand le spectacle est raté, ça arrive. Le public est là et le public applaudit parce que c'est très conventionnel tout cela. Et là, on s'est retrouvé dans une autre situation, c'est la concurrence d'Yoff. Il y a 1500 spectacles qui étaient présentés. Comment exister au milieu de tout ça? Donc, il y a beaucoup de craintes, beaucoup de stress pour tout le monde. Et puis, tous les jours, parce que dans le Huyn, vous jouez qu'une semaine. Hein, c'est très différent. Vous êtes très médiatisé, mais que quelques jours. Là, on a joué tout le mois de juillet. Et puis, c'est l'inconnu. C'est-à-dire qu'on part, on ne sait pas ce qui va se passer. Ouais. La salle peut être vide,
est-ce qu'il y aura
la
des
presse
spectateurs
peut ne pas suivre. C'est... Ouais. Voilà. Et donc, ils ont, contrairement à ce que je craignais, aimé cette situation et cet inconfort. Et ils ont retrouvé des choses qu'ils n'avaient plus vécues depuis longtemps et ça leur a plu. Ils se sont pris au jeu. Ils ont vécu pleinement cette vie de troupe. Alors moi, je m'étais plié en quatre pour que tout fonctionne. Hein. On avait mis en place très vite des petits rituels. Le soir, on avait des dîners qui étaient interminables. Beaucoup d'échanges et même avec les jeunes, ils ont adoré finalement.
Voilà, ils ont transmis aussi quelque chose.
Et puis voilà, et les deux sont de véritables encyclopédies du théâtre contemporain, c'est parce ça. Que John a été formé par Mouchkine à la cartoucherie, donc voilà, c'est deux récits de vie incroyables et donc on a beaucoup échangé là-dessus. Et puis la presse a senti la chose, c'est-à-dire que le fait que ces deux monstres viennent pour la première fois de leur vie à la soixantaine dans le off, c'est qu'il y avait quelque chose. Et dès les premiers jours, Télérama, France Inter, tout le monde a déboulé. et je me souviendrai toujours de ce journaliste de France Inter qui vient me voir à la sortie et qui me dit « Je sais pas comment vous avez fait ». Mais chapeau bas.
Ça, c'est un beau coup.
Avec un
magnifique
petit clin d'œil.
On pourrait presque s'arrêter là.
Et là, j'ai senti qu'il se passerait quelque chose pendant ce festival. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est que l'étonnement des médias et du public était
au rendez-vous.
Sincère, ouais. Était au rendez-vous. Et du coup, ils sont venus. Mmh. Et puis, comme le spectacle a plu, on a vécu 3 semaines. Incroyable, c'était un petit moment miraculeux. Pour moi, c'était vraiment l'aboutissement parce que quand on a une telle pression, quand on a tellement peur de tout ce qui peut se passer autour du spectacle et que ça se passe aussi bien,
oui,
c'est un moment de grâce. Voilà, j'ai vécu 5 semaines à Avignon de cet été de grâce et du coup une espèce de sérénité quotidienne et un bonheur et une émotion parce que voilà, on est entouré par tous ces gens qu'on aime et on a partagé tous ensemble quelque chose de si fort qu'évidemment une amitié incroyable, on est sorti. Et vous imaginez, je revois cet étudiant qui allait voir tous les spectacles de Braunschweig au TNS pour voir Philippe Girard. Et aujourd'hui, je suis très ami avec Philippe et c'est un bonheur sans nom.
Alors, vous avez fait, donc vous l'avez dit, 5 semaines à Avignon. Et puis, vous êtes revenu à Strasbourg. Est-ce qu'au bout des 5 semaines, vous avez pu avoir des contrats pour jouer ailleurs? C'est ça?
Parce qu'en fait, on
vend les spectacles quand c'est
Avignon,
en off.
On vend le spectacle parce que c'est en off. Alors, on a eu beaucoup d'articles et de...
Autant
et
ça
de
a été difficile.
C'est difficile pour la vente parce que, encore
le
une
sujet
fois,
est difficile.
Le sujet est difficile et ça fait un peu peur. Donc, pour être sincère avec vous, là, tout se négocie en ce moment.
En ce moment.
Et puisque l'idée principale, c'est de la reprise à l'automne, donc automne 2020... On aura des dates, évidemment.
Mais
c'est peut-être plus difficile que ce que je n'imaginais pendant Avignon.
Ouais, mais là, vous avez quand même une date importante à Strasbourg.
Oui, bah, parce qu'effectivement, on a quand même des dates. Et là, bah, on reprend dans 2 semaines au TAPS.
Quelle date ?
Du 28 janvier au 1er février.
28 janvier, 1er février au TAPS.
Scala.
Scala. Important de retenir 28 janvier.
C'est, oui, parce que c'est, pour moi, c'est, jours, hein. C'est une vraie émotion, parce qu'après tout ce qu'on a vécu. Alors, il faut savoir que pendant Avignon, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. On nous avait donné plein de conseils sur la com, et on nous avait dit que Facebook était un élément devenu essentiel. Et que,
non.
Si, on nous l'a vivement conseillé, et je peux vous dire que ça a marché. Hein.
Mais à coup pas.
Parce que moi qui ne suis pas très réseaux sociaux, je ne le fais que pour mes projets en général. Et là, il y avait une belle opportunité à travers le Festival d'Avignon. Puis j'ai commencé, dès la semaine d'installation, à raconter un peu ce qui se passait et à faire une sorte de journal quotidien de ce qui se passait à Avignon, une sorte de blog via Facebook. Et puis, très vite, j'ai commencé à être suivi par beaucoup de monde et à recevoir beaucoup de messages. Et en fait, il s'est passé un truc incroyable, c'est que du coup, du premier au dernier jour, j'ai tout raconté dans le détail. Et comme en plus, on avait donc un écho médiatique important, qu'on a eu beaucoup de people qui est venu nous voir, donc du coup, j'ai raconté tout ça au fur et à mesure dans ce blog. Et ça a eu un succès énorme. Et beaucoup de gens venaient grâce à ce blog. J'étais suivi par ce blog. Et tous les matins, parce que j'écrivais la nuit, de fait, puisqu'on se couchait très tard, j'écrivais la nuit, je dors peu, j'ai cette chance. Et du coup, tous les matins, j'avais plein de messages, plein d'échos à ça. Et même ça a été une aventure incroyable. Plein de gens me disaient, ouais, il faut le faire éditer, c'est incroyable, c'est magnifique. Les gens attendaient tous les jours la suite des aventures. J'ai fait la même chose, du coup, les 5 semaines à Paris, à l'automne. Et ça a fait partie de l'histoire, ça a fait partie de la légende de cette aventure. Ça a été aussi de le partager avec soit les spectateurs qui venaient, soit avec ceux qui nous suivaient à travers ce récit sur ce blog.
Mais l'aventure n'est pas finie.
Et l'aventure, du coup, n'est pas finie. On est de fait suivi et un peu attendu. Alors là, pour moi, c'est un moment particulier parce que je reviens à la maison. Donc Strasbourg, là où on a créé le spectacle en 2016... donc les gens ont entendu parler de ce spectacle grâce aux réseaux sociaux, grâce à Facebook et Instagram et les autres. Et puis le bouche à oreille, parce qu'Avignon, par exemple, c'est d'abord et avant tout le bouche à oreille qui fonctionne. Donc là, maintenant, c'est au niveau local que ce bouche à oreille doit fonctionner. Donc ce retour à la maison, c'est un moment particulier pour moi. Et c'est limite un stress un peu étrange parce que... Voilà, après le succès qu'on a rencontré, de revenir à la maison, c'est difficile parce qu'on ne sait jamais comment... Nul n'est prophète en son pays.
Oh,
hein.
Oh mais pour faire référence à quelque chose, à une bande dessinée que vous avez écrite, vous êtes sous le bon basal. Je suis sûre que ça ne va pas. Oui, parce qu'il a aussi fait de la BD. Donc, vous êtes sous une bonne étoile et on ne se fait pas de soucis. Et on est certain que ça va marcher et que vous aurez le succès que vous méritez. D'autant plus que cette année, c'est l'année
C'est une année 2020, de Gaulle.
Hein, de Gaulle.
Voilà, en fait, on fête les 80 ans de l'appel du 18 juin. Les 130 ans de la naissance de De Gaulle, mais le plus important, c'est les 50 ans de sa mort, cet automne. Donc, effectivement, tous ces anniversaires vont marquer un peu une année De Gaulle de fête.
Oui, il y aura peut-être une captation aussi, pourquoi pas.
Il y aura peut-être une captation. Alors moi, le dernier rêve que j'aurais autour de ce projet, ce serait d'en faire une adaptation... en téléfilm ou en cinéma, ça me paraît plus compliqué financièrement, mais au moins en téléfilm, je suis convaincu de la possibilité de ce projet.
Voilà, vous avez compris, il est déjà sur le prochain projet. Il est déjà sur le prochain projet et c'est formidable l'énergie que vous...
Autour du projet de l'année de Gaulle, j'ai d'autres projets, hein, parce que fait, j'ai eu plein d'autres opportunités. Hein, parce qu'en travaillant avec la Fondation de Gaulle, j'ai appris que à la mort du général, Yvonne de Gaulle a reçu des dizaines de milliers de lettres écrites par les Français, spontanément, de tous âges, hein, parce que même des enfants avec des dessins. Et ces lettres reposaient dans des archives dans la cave de la Fondation de Gaulle et n'avaient jamais été utilisées.
Ah, et je vois coup, venir.
Avec Frédéric Naudufour, une historienne bien connue ici, ouais. On s'est amusé à décortiquer ses lettres et c'était un travail passionnant, à la fois drôle, bourré d'anecdotes, enfin c'est quelque chose d'incroyable. Et on s'est dit que c'était pas possible de ne rien faire de ces lettres. Et donc on est en train de... Alors il y a un ouvrage qui se prépare, alors là c'est vraiment sous la direction de Frédéric. Et puis moi je vais mettre en place des lectures de ces lettres. Et on va proposer ça maintenant aux médiathèques, au théâtre,
c'est
à tous
formidable.
Ceux qui voudront. Et à l'automne...
Ah je vous l'ai dit, hein, il a 100 idées à la minute et c'est très compliqué de suivre quand on n'est pas...
C'est génial. Si, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire. Alors, moi, pourquoi je suis un des hommes les plus heureux sur Terre aujourd'hui ?
Dites-moi.
Depuis trois ans, et particulièrement pendant l'année 2019, j'ai rencontré évidemment tous les tenants du gaullisme, et parmi toutes les rencontres que j'ai pu faire, tant de gens que je rêvais de rencontrer. Hein, par exemple, il y a eu deux livres qui m'ont donné envie de travailler sur De Gaulle. Il y avait effectivement Les chaînes qu'on abat. Rencontrer André Malraux, ça devenait compliqué. J'ai quand même rencontré sa fille, ouais. Et du coup, c'est les proches qui restent en vie. Et puis, j'avais lu Les stèles à De Gaulle, un ouvrage de Philippe Le Guillou, qui m'avait beaucoup marqué et qui m'avait fait comprendre qu'à travers le personnage historique, il existait un personnage assez étrange, à la fois écrivain, à la fois intellectuel et idéologue. Enfin, il y avait et philosophe. Parce que les cartes, c'est vraiment un homme d'une richesse incroyable, le De Gaulle. Et du coup, c'est Philippe Le Guillou qui m'avait ouvert un peu la voie. Eh bien, j'ai rencontré Philippe Guillou, évidemment, cet été. Il est venu voir deux fois le spectacle cet automne à la Cartoucherie et on est devenus très amis. On s'écrit régulièrement maintenant. Et voilà, c'est cet auteur qui m'a tant inspiré et touché. Ben voilà, maintenant, encore une fois, c'est une amitié nouvelle. Et des amitiés comme ça, j'en ai noué beaucoup depuis quelques mois, quelques années. Et ça, c'est grâce à ce spectacle. Et puis, tout dernier, parce que le temps passe, j'ai pu rencontrer le dernier témoin encore en vie de l'entourage du général, c'est Raymond Sassia, un de ses quatre gardes du corps, les fameux gorilles du général, et c'est le dernier encore en vie. Et quand De Gaulle revient au pouvoir en fait en 58, souvenez-vous, il y a très vite l'Algérie, la question de l'Algérie et les attentats de l'OAS. Et donc De Gaulle, qui ne supportait pas la présence policière autour de lui, qui voulait pouvoir aller au contact du peuple, refuse donc qu'on mette en place des mesures de sécurité particulières.
Il y a eu l'attentat, le fameux.
Et il accepte juste, parce qu'on l'oblige un peu, d'avoir donc des gardes du corps 24 heures sur 24 autour de lui, mais qui se fondent autour de lui et qui n'empêchent pas du coup le contact avec les gens et qui sont surtout très discrets par rapport à la police. De Gaulle ne voulait pas de motards ou de gens ou une sécurité autre que celle-ci. Mais du coup, ces quatre gardes du corps font partie de la famille pendant toutes ces années. Ils sont là, voilà. Et du coup, Raymond Sassia a tout vu pendant toutes ces années. Il a assisté à tout. Vous voyez où je veux en venir ?
Ah oui, je vois.
Il n'a jamais rien dit parce que,
encore
évidemment,
un projet.
Il avait
secret d'État, juré secret d'État.
Le secret. Et là, il commence à parler et je l'ai convaincu de partager effectivement ses souvenirs. Et je suis en train de travailler sur, évidemment, un documentaire autour de Raymond Sassia pour parler du De Gaulle intime via son dernier garde du corps encore en vie.
Encore, j'ai juste une question qui me vient là, pardon de la poser comme ça, mais en 2020, De Gaulle, ça parle encore à cette génération
Au plus jeune. Pas suffisamment, bien entendu, mais
c'est important.
Le travail qu'on fait va les aider à s'interroger et à se poser la question, parce que effectivement, la politique à l'époque a une grandeur et à une dimension qu'elle n'a plus du tout aujourd'hui. Mmh. Quand on voit aujourd'hui la mésestime qu'on peut avoir envers les politiques, retrouver ce dévouement et cet engagement et ce, et ce, Et ce sacrifice que cette génération a pu faire, c'est une vraie leçon. Et je pense que c'est tout le contraire. On a besoin aujourd'hui de renouer avec ce passé, hein, un passé presque mythique. Hein, la France des 30 Glorieuses, c'est, tout le monde en est nostalgique. Mmh. Et je pense que vu l'état du pays et vu l'état de la France aujourd'hui, il est d'autant plus important de revenir sur ce passé pas si lointain où la France représentait encore quelque chose dans le monde. Donc les plus anciens, évidemment, eux sont très attentifs à ce qu'on prépare, à nous de convaincre les plus jeunes de l'intérêt aujourd'hui de parler du général de Gaulle. Et je pense que tout ce qui va se passer tout au long de l'année 2020 ira dans ce sens. Mmh.
Documentaire, écriture, tout ça, ça bouillonne un peu dans la tête.
Je
suis sûre qu'on aura l'occasion d'en parler, mais l'information importante, ce qui est important, c'est le 28...
La reprise au TAPS du 28 janvier au 1er février.
Alors
c'est
la pièce
à 20h30 tous les soirs, sauf le jeudi à 19h.
Répétez.
Alors, du 28 au 1er février tous les soirs à 20h30 et le jeudi à 19h.
Alors, une pièce donc que vous avez mis en scène.
TAPS Scala.
Au TAPS Scala, avec ces deux immenses acteurs.
Philippe Girard, John Arnold.
Le Crépuscule, une mise en scène de Lionel Courteau, à ne manquer sous aucun prétexte. Merci beaucoup, Lionel. On aurait pu parler encore trois heures.
Ah oui, sans problème.
Je peux pas, j'ai piscine. Merci, Lionel.
Merci beaucoup.
Et on vous retrouve dans l'émission, bien sûr, dans l'émission Il est temps de chasser l'ennui. C'est tous les mardis soirs à 17h, enfin, en fin d'après-midi, à 17h sur Radio Judaïca. Et puis, si vous l'avez manqué, le lendemain, mercredi matin, à 9h, toujours sur Radio Judaïca 102.9 ou sur Internet, judaïcastrasbourg.fr. Merci beaucoup, Lionel Courteau. Bravo.
Merci
à vous et à toute l'équipe qui travaille, les équipes, je veux dire, qui travaillent avec vous, pour vous. Vous leur donnez beaucoup de force et vous leur donnez... Enfin, moi, je les vois quand vous venez enregistrer. Ils sont investis dans l'émission et j'imagine qu'ils sont aussi investis dans tout ce que vous entreprenez. On vous souhaite plein de belles choses et on dit le mot de Cambronne, on peut le dire, avec un M majuscule. Merci Lionel, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.